Bienvenue au Bagarre Club, là où chaque coup compte. Au programme, débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagarre Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Bagarre Club. On est de retour pour une nouvelle émission 100% MMA, 100% bagarre, tous les mardis soirs. Lounis est avec moi pour cette émission. Comment vas-tu, Lounis ?
Ça va très bien, très heureux d'être présent et de pouvoir être avec toi du coup pour cette nouvelle émission du Bagarre Club. Surtout qu'on a beaucoup de choses à dire vis-à-vis des événements du coup du week-end dernier et puis vis-à-vis de l'UFC 300 qui approche à grands pas.
Tout à fait. Donc pour l'instant, il n'y a que nous,
oui,
tout simplement.
Oui, oui.
Hugo qui est un petit contretemps, voilà, qui est actuellement enfermé chez lui car il n'a pas ses clés.
Il n'a pas ses clés, voilà. Si on n'a pas le fin mot de l'histoire, vous êtes libre de nous suggérer vos hypothèses, mais on ne sait pas ce qui s'est passé.
Si voilà. Vous retrouvez les clés d'Hugo, n'hésitez pas à nous contacter.
Voilà.
Tout simplement. Tout à fait. Hugo qui malheureusement est absent. Nora a un petit peu de retard, donc elle va venir très très vite. Donc en attendant, je gère la technique, tant bien que mal.
Pour
donc,
le moment, ça tient le coup.
S'il y a des petits couacs, c'est normal, il n'y a pas de souci.
T'es très courageux.
Tout à fait. Donc, vous connaissez la chanson, on s'installe confortablement, on va passer la prochaine heure à parler ensemble de MMA. Comme l'a dit Lounis, des actualités assez chargées, mine de rien. On va notamment parler de la Française, Manon Fiorot, qui s'est imposée avec la manière dans son combat contre l'Américaine Erin Blanchfield.
Ouais.
Donc ça, c'était dans la nuit de samedi à dimanche dernier. On va également faire une petite preview de l'événement qui aura lieu ce week-end. Donc Brendan Allen contre Chris Curtis 2.
Oui.
Et
oui,
le
oui.
retour du français Morgan Charrière pour son deuxième combat à l'UFC.
Oui.
Donc voilà, ça va nous prendre également un petit moment. Et enfin, on parlera, donc on fera le premier tour d'horizon des préliminaires qu'il y aura pour l'UFC 300. Donc voilà, beaucoup de choses à dire, beaucoup de combats très intéressants. Forcément, UFC 300 oblige, il va y avoir du contenu. Donc voilà pour voilà un petit peu pour le sommaire. Et bien sans plus attendre, on va partir sur les actus.
How much can you know about yourself if you've never been in a fight? Les actualités MMA de la semaine dans le Bagarre Club.
Les actus, donc c'est tout chaud, c'est tout frais, c'est la victoire de notre Française Manon Fiorot sur l'Américaine Erin Blanchfield, une victoire vraiment plus que convaincante. Lounis, quelle est un petit peu ton opinion, ton analyse sur ce combat ?
Très très satisfait de on va dire en tant que fan français, je suis très heureux de la performance de Manon Fiorot. Là où je trouve que face à son dernier combat contre Rosna Mayuna, qui me semble était à l'UFC Paris,
tout à fait.
Je l'avais trouvé. Alors techniquement, il n'y avait pas grand chose à dire, mais je sentais qu'elle avait un petit peu peur et à juste titre de Rosna Mayuna, c'est notamment du pouvoir de chaos que peut avoir Rose quand elle est dans ses grands jours. On sentait qu'elle était un petit peu plus sur la défensive, qu'elle essayait comme ça de moins rentrer justement dans le brawl comme elle a pu souvent le faire dans de nombreux combats à l'UFC. En tout cas, elle imposait moins ce rythme justement très dominant avec énormément de frappes, avec un volume systématique. Mais là, je la retrouve, enfin surtout face à une combattante et à une Blanchfield qui me semble était à 13 victoires pour seulement une
12,
défaite,
12,
12 victoires pour une seule défaite. Donc un record plutôt impressionnant et qui pouvait prêter à effrayer un peu hein, quand même, un palmarès qui pouvait nous faire peur à nous fans français. Mais elle a vraiment, là pour le coup, j'ai retrouvé la Manon Fiorot face à Caitlin Chukigan, face à beaucoup d'autres, justement dans ses premiers combats à l'UFC, où vraiment elle dominait clairement ses adversaires. Non pas par une puissance de chaos ou vraiment cette espèce de menace perpétuelle un peu comme une Amanda Nunes, mais plutôt justement en noyant complètement son adversaire sous les frappes, un peu à la manière d'un Max Holloway, quoi.
Ouais, t'as parlé de domination dans ce combat, il y a un chiffre qui est criant à propos de ça, c'est la scorecard, oui. Donc des juges, les juges qui ont donné les 5 rounds à Manon Ciro. Ouais. C'est assez rare.
C'est rare.
C'est très rare, c'est rare qu'une combattante prenne les 5 rounds.
Surtout chez les, dans les divisions féminines, c'était très, très, très rare.
Ouais, donc voilà, ça en dit vraiment long sur cette performance de Manon Ciro, donc vraiment qui a surdominé son adversaire. Il y a des rounds qui étaient serrés quand même.
Oui.
Il faut le dire. J'ai mémoire le deuxième et le troisième notamment.
Non, bah.
Et ouais.
Blanchefield était tout de même pas, je veux dire, c'était pas non plus une amatrice. C'est pas n'importe qui. Elle a quand même essayé de se défendre et de trouver quelques.
Ouais, deux petites infos à propos de son adversaire. Manon Ciro a 34 ans, Erin Blanchefield en a 24.
Ouais.
Et avant ce combat, Erin Blanchefield, c'était vraiment considéré par les Américains notamment comme la future pépite, voilà, le futur du MMA féminin peut-être.
Ouais. Et cette catégorie.
Voilà.
Ouais.
Et là, elle s'est fait vraiment calmer par notre doyenne française, par Manon Ciro.
Je me rappelais plus qu'elle était entre guillemets si âgée que ça, Manon Ciro, mais tout de même.
Ouais, moi non plus. Ouais.
Plus de la moitié de la trentaine, donc.
Tout à fait. Non, Manon Ciro, très très grosse performance. Moi, j'ai surtout vu une gestion de la distance qui était assez impressionnante parce que Erin Blanchefield a essayé de pas mal rentrer dans son adversaire pour essayer, pourquoi pas, une amener au sol.
Oui.
Et à chaque fois.
De casser un peu la distance.
C'est ça. À chaque fois que Erin Blanchefield essayait de casser la distance, il y avait un jab, un contre qui partait de Manon Ciro. Et à chaque fois, son adversaire s'empalait dedans.
Et
ça touchait. C'était vraiment. Enfin, c'est vraiment un truc que j'ai vu énormément pendant ce combat.
Ça aussi, tu vois, ça m'a fait plaisir de retrouver ça parce que, alors, si je me méprends pas, mais il me semble que c'était le combat contre Caitlin Chookagian où je l'avais regardé avec un ami et on avait la même, on a eu la même observation pendant le combat. On se disait, mais pourquoi Manon Ciro n'envoie pas plus d'uppercut ou justement de crochets au corps et notamment au foie, parce qu'il y avait énormément de passages qui se déroulaient en clinch et elle souhaitait toujours envoyer plutôt des jabs ou des directs. Alors, ce qui peut être une stratégie, de faire un peu comme Sean Strickland et de bloquer comme ça contre la cage ton adversaire pour mieux réussir à le toucher, mais là, on voyait assez peu de travail au corps et ça m'a fait vraiment assez plaisir de retrouver ça dans le combat contre Blanchet, parce que là, effectivement, elle travaillait vraiment sur les contres, sur le corps. Elle veillait vraiment à garder, effectivement, à préserver une distance face à Erin Blanchfield, mais également à la stopper, en fait, dès qu'elle arrivait, comme tu l'as dit, adroitement, là, à l'instant.
Ouais, tout à fait. De toute façon, ça a toujours été aussi une des grandes forces de Manon Ciro, c'est son anglaise.
Oui, elle a un très très bon niveau en anglaise, en kickboxing de manière générale.
C'est son arme principale. Hein.
Oui.
Et toi, tu parlais aussi un petit peu de la puissance de Manon Ciro. Moi, quand même, dans la cage, alors pas tant en puissance de frappe, mais j'avais vraiment la sensation de voir vraiment une différence physique. Manon est vraiment monstrueuse physiquement. Oui. Par rapport à ses adversaires. Donc, non, tout à fait. Il y a vraiment une différence.
Elle est vraiment imposante. C'est vrai que quand on regarde la carrure qu'elle a, et surtout comparée à ses adversaires, elle est vraiment très imposante. Elle n'a pas, mais en même temps, j'allais dire, c'est très rare d'avoir une combattante qui a vraiment un knockout power, une faculté à pouvoir stopper net avec un coup de poing ses adversaires. Mais en revanche, ce qu'elle n'a pas sur justement ce qu'elle n'a pas en KO, elle le compense par un volume de frappe et justement une précision qui est vraiment top à ce niveau-là.
Ouais, tout à fait. Donc on l'a dit, performance vraiment XXL de Manon Ciro qui a surdominé son adversaire. Maintenant, Luni, est-ce que tu peux, il y a vraiment un problème pour Manon Ciro. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est le problème et quelle suite également tu imagines pour Manon Ciro?
Alors, ce qu'il se passe, c'est qu'en janvier 2023, sauf erreur, Valentina Shevchenko, qui était la championne donc, des poids mouches de l'UFC, perd son titre à la surprise générale contre la Mexicaine Alexa Grasso. Et je rappelle que la catégorie effectivement des poids mouches, c'est la catégorie dans laquelle officie Manon Ciro. Donc bref, pour situer. Valentina Shevchenko, qui était une championne extrêmement dominante, perd face à Alexa Grasso. Alors, une revanche est immédiatement programmée. Et la revanche, car très disputée, et comme les juges n'ont pas réussi à se mettre d'accord, termine sur une égalité. Donc, en fait, on n'a pas
Ce qui est assez rare, mine de rien.
Ce qui est assez rare. Et donc, on n'a pas vraiment le fin mot de cette histoire sur cette rivalité entre Shevchenko et Alexa Grasso. Ce qui retarde donc un potentiel accès au titre pour Manon Fiorot. Ça me rappelle un petit peu la situation dans laquelle la catégorie des poids lourds et notamment Francis Ngannou avait été lorsque y avait la trilogie entre Stipe Miocic et Daniel Cormier et qui créait comme ça un embouteillage au sein de la catégorie.
Ouais. C'est toujours le problème. Alors c'est toujours quand même malgré tout assez passionnant de voir donc des grandes rivalités comme ça. Donc grâce au Shevchenko, t'as dit Cormier, Miocic, etc. Oui. C'est toujours hyper intéressant.
Mais ça bloque une catégorie.
C'est
quoi.
Ça. Ouais. Et dans une catégorie qui pour le coup actuellement bouge beaucoup, hein, Irène Blanchfield, Manon Fiorot. Oui. Honnêtement, ce combat, il a eu lieu juste parce que elles avaient rien d'autre à faire en attendant.
Non, clairement.
Ça aurait dû être à l'une des deux d'accéder au titre. Peut-être plus même Manon Fiorot.
En temps normal, ça aurait été le cas. Là, je pense que c'était effectivement un combat pour savoir, comment dire. Vous êtes toutes les deux prétendantes au titre. Le temps que Shevchenko et Grasso règlent leurs affaires, on va voir comment vous deux vous gérez un petit peu, vous gérez ça de votre côté. Enfin, vous patientez un petit peu en vous affrontant et puis après on verra pour un potentiel accès au titre.
Pour la suite, ouais, tout à fait. Donc le temps que tu nous expliques tout ça, Nora a pu prendre place à son poste de régisseuse. Comment vas-tu, Nora ?
Ça va très bien, merci, et toi ?
C'est bon, tu reprends tes marques, il n'y a pas de souci.
C'est bon, je suis désolée, un petit peu de retard avec les transports.
Au moins tu es là comparé à Ego.
C'est vrai. Il ne fait vraiment pas d'effort, lui, pour le coup.
Non, du tout. Donc,
non,
voilà.
On a vrai pour le retard.
Il n'y a aucun souci. Voilà un petit peu, bon, je pense qu'on a fait... On a fait le tour pour ce combat de Manon Fiorot. À moins que tu aies autre chose à rajouter. Mais
non, du tout. Je pense que la situation est assez explicite vis-à-vis de la catégorie des poids mouches. Et puis, il n'y a pas grand-chose à ajouter sur sa performance. Hein. Elle a été superbe.
Bah, de toute façon, tous les adversaires qu'elle a eu affrontés, elle les a dominés. Donc, au bout d'un moment, maintenant, ça va être combat pour le titre pour Manon Fiorot. Vas-y, on a un petit peu de temps. Est-ce que ce soit contre Grasso ou contre Shevchenko, tu penses que Manon Fiorot peut devenir la première championne / champion française à l'UFC?
Alors, oui, mais j'en parlais en off tout à l'heure, on va pas tomber dans les mêmes erreurs que moi-même, hein, je suis tombé là-dedans, mais que Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier ou Cyril Gane contre John Jones, Grasso et Shevchenko, c'est des adversaires, enfin, même si elle a affronté effectivement des pointures hein, jusqu'à présent, Manon Fiorot. Mais il ne faut absolument pas sous-estimer que ce soit le sol ou le fight IQ d'Alexa Grasso ou simplement la précision, que ce soit en striking et même en la précision martiale d'une Valentina Shevchenko. C'est possible, hein. Je pense que Manon Fiorot peut le faire, mais la concurrence est vraiment rude, quoi. Pour moi, il y a encore une marche qui la sépare de... Elle ne peut pas faire grand-chose, hein, mais c'est juste... Je pense que si elle arrive à s'imposer face à l'une des deux, ce sera vraiment au prix d'un combat très très disputé. Je vois bien une décision partagée ou quelque chose comme ça.
Okay.
J'ai du mal à l'imaginer vraiment dominer Grasso ou même Shevchenko, quoique Shevchenko commence un petit peu à vieillir, quoi.
Tout à fait. Bah, déjà, on aura des éléments de réponse quand elles vont s'affronter toutes les deux.
Oui, là on verra l'état de... clairement
l'état de Shevchenko. Est-ce que Grasso... Et vraiment la nouvelle pépite comme on l'attend. Donc voilà. Ensuite, donc voilà pour ce combat de Manon Fiorot. On va ensuite parler un petit peu de l'événement du week-end, celui qui arrive.
Oui.
Donc deux combats notamment qui nous intéressent. On va commencer par le français, tout simplement. Excusez-moi. Donc le combat du français, Morgan Charrière, fait son retour pour un deuxième combat à l'UFC. Donc petite présentation comme ça de Morgan Charrière. Donc justement, comme j'ai dit, l'objectif c'est de continuer sur ses excellents débuts à l'UFC Paris, qu'il avait gagné. Il avait gagné son combat au premier round par un coup de pied au foie contre l'Italien Zecchini.
Oui.
Et l'enjeu un petit peu pour Morgan Charrière aussi, ça va être de continuer un petit peu, de relancer pleinement sa carrière, parce qu'il a eu quand même pas mal de déboires avant de signer à l'UFC.
Oui.
Déjà, à ses débuts, il avait connu pas mal de défaites, mais c'est surtout parce que c'était un combattant qui acceptait beaucoup de combattants. Mm-hmm. Donc même qui acceptait beaucoup de combats, même ceux qui étaient dits pas trop forcément de son niveau. Donc voilà, il y a eu quelques défaites, mais au final, ça lui a permis d'apprendre. Il y a eu ensuite une signature au Cage Warrior, où il a réussi à finir champion de sa catégorie, donc les poids mouches.
Oui.
Il a, à ce moment-là, une fois qu'il est devenu champion, il avait une opportunité de signer à l'UFC qu'il a refusé.
Oui.
et parce qu'il voulait avoir au moins une défense de ceinture avant de signer à l'UFC.
Ça, je précise que c'est très honorable de sa part, parce que tout beaucoup ne s'embarrasseraient pas d'un respect comme ça pour une ceinture qui est temporaire, en fait. C'est pas son objectif
à terme. Et surtout, je trouve, ça montre aussi une certaine intelligence sportive. Ça lui permettait à lui de se prouver qu'il était réellement prêt pour aller à l'UFC et ne pas griller les étapes. Donc déjà, rien que pour ça, c'est très salutaire. Malheureusement, il a perdu ce combat par décision partagée. Et c'était vraiment... je me rappelle avoir vu ce combat en direct, c'était un coup de pas de chance, on va dire.
Ouais, on peut dire ça comme ça. C'était une décision. On va dire ça comme ça.
Voilà. Ça aurait pu tomber dans l'autre côté, malheureusement. Laura, une question, dis-moi.
Oui, parce que du coup, pour les néophytes comme moi, qui ne suivent pas particulièrement de très près les combats, j'ai vu un petit regard complice et un coup de pas de chance, c'est une décision, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement?
C'est une décision qui a été très controversée. Beaucoup voyaient Morgan Charrière l'emporter.
C'est toujours, malheureusement, c'est toujours les juges ou l'arbitre qui prennent cher quand il y a un combat très disputé et qu'il faut choisir un vainqueur, quoi. Parce qu'une égalité, c'est rare. Et là, moi, j'aurais pas mis. Enfin, bref, j'aurais pas choisi cette issue-là pour le combat, mais je suis pas juge.
De savoir, en fait, si on a le temps de l'évoquer rapidement, mais de savoir où est la controverse, en fait, c'est quoi.
En fait, il y a eu un combat donc, sur 3 rounds.
Ok.
Beaucoup estimaient que Morgan Charrière avait remporté les 2 derniers et son adversaire du soir, donc c'était Paul Vucenic, avait remporté le premier.
Mm-hmm.
Et les juges ont donné plutôt le deuxième round à son adversaire Vucenic. Et du coup, Morgan a perdu le combat par décision. Alors que techniquement, certains pensaient, dont moi... Bon après, c'est toujours pareil, c'est très facile d'être à la place des juges. Hein. On n'est pas du tout experts. Mais voilà, c'était là la controverse. Le choix des juges a fait polémique, tout simplement.
Okay.
Et voilà. Et derrière, du coup, cette défaite, cette perte de titre, il y a eu une autre défaite, une deuxième consécutive. Donc là, on s'est dit, aïe.
Son avenir est peut-être.
On s'est dit, attention. Même en plus, c'était un combattant qui avait beaucoup de popularité à ce moment-là. Voilà, c'était vraiment le petit prodige très populaire. Et voilà, 2 défaites consécutives, ça a un petit peu reculé la hype. Au final, je pense que c'est pas plus mal. Ça a pu lui permettre de prendre un petit peu moins de pression, de se reconcencentrer. Il a enchaîné ensuite 3 victoires consécutives. Sauf que dans ces 3 victoires, alors il y a des victoires très honorables, tout à fait. 2 finitions notamment sur 3. Et c'est surtout qu'en fait, il a eu énormément d'annulations de combats. Mmh. Et c'est ça qui l'a vraiment frustré. Il a passé quasiment plus d'un an sans combattre parce que tous ses adversaires annulaient petit à petit. Donc beaucoup de difficultés pour enchaîner vraiment les combats.
Mmh.
Il a réussi au final à se remettre sur pied. Il a signé à l'UFC. Il a fait ses débuts à l'UFC Paris donc en septembre dernier.
Quel début pour le coup
Et des débuts. Il a eu le titre de performance de la soirée. Ouais. Donc TKO.
Un TKO au foie qui était vraiment très très beau. Très très sale mais très beau.
Et en plus des titres que tu gagnes quand tu gagnes un combat. Mais tu peux gagner un titre de meilleur combat de la soirée.
Et meilleure performance.
C'est quoi? C'est un petit titre officieux que...
Non, c'est un titre officieux, mais c'est surtout un billet en plus sur ta paye.
Parce
que tu touches un salaire en fonction de tes combats.
Ouais.
Et si tu décroches évidemment le combat de la soirée ou performance de la soirée, t'as un petit bonus. Et sachant que t'es très mal payé en étant combattant de MMA professionnel, tu craches pas sur une augmentation de paie parce que t'as mis le KO de la soirée.
Mais ce qui veut dire quand même que les combattants plutôt, les sportifs en fait, ont tout intérêt à faire en sorte que, le combat soit spectaculaire.
Il y a des combats qui sont, des combattants qui longtemps ont mis une priorité à ça. Sean O'Malley, typiquement.
Ok.
Ouais, tout à fait. Donc voilà, des petits bonus comme ça attribués à chaque événement. Donc en vrai, je trouve que c'est une bonne chose de la part de l'UFC. Ça permet vraiment de rajouter du spectacle. Hein.
Après, on est là pour ça. On va pas se mentir aussi.
Il y a clairement de ça. On va pas jouer aux intellectuels.
C'est clairement un combat très jouissif. La technique est très belle. C'est très appréciable, mais.
Il en faut.
C'est ça.
Il y a le folklore à côté, quoi.
On va faire du coup un petit tour d'horizon, un petit peu, notamment de son adversaire.
Oui.
Donc, son adversaire qui est en 15-6 en termes de palmarès à l'UFC, donc ce qui est un bilan, ma foi, tout à fait
plutôt
honnête.
Plutôt correct. Ouais.
Morgan Charrière est en 19-9. Comme je vous ai dit, pas mal de défaites à ses débuts, mais à la limite, c'est pas très grave. Et donc, on va également avoir en face de lui un très bon striker.
Oui.
Voilà, donc Chepe Mariscal, son adversaire, qui a également pas mal de victoires par KO TKO. En général, quand on a deux strikers qui s'affrontent, surtout dans des catégories assez légères,
j'allais le dire, ouais.
Poids
ouais.
plume en général, ça, on peut s'attendre à du spectacle.
On peut s'attendre à du spectacle, on peut s'attendre à du spectacle. Après, c'est toujours, comment dire, ce genre de catégorie, c'était toujours assez difficile c'est ça pour les bantams ou comment dire, les featherweight, c'était toujours un petit peu difficile de prédire si un KO ou quelque chose de cet acabit peut avoir lieu parce que j'aurais du mal à l'expliquer, mais disons que le poids mis au niveau de l'impact n'est pas du tout le même que sur les catégories supérieures. Et c'est en fait assez difficile de prévoir en fait de est-ce que une combinaison en fait peut vraiment abattre l'adversaire d'un seul coup, ou alors est-ce que ça va plutôt être la somme de différents coups qui va mener comme ça un adversaire à s'écrouler. C'est souvent assez difficile et c'est très rare, j'y pense, mais là on parle de la catégorie des poids plumes, c'est très rare d'avoir un combattant par exemple comme Ilia Topuria qui peut juste éteindre un type d'un seul coup comme il l'a fait avec Volkanovski. Ouais. Généralement,
on pense à Josh Emmett aussi et son non, voilà, Brice Mitchell.
Pour ce type de typiquement pour ce type de catégorie, c'est très très rare et généralement ça vient à l'usure. C'est-à-dire que il a pris tellement de coups qu'au bout d'un moment, il y a un direct ou un jab qui passe et c'est terminé quoi.
Voilà. Et du coup, c'est vrai que Morgan Charrière fait pas forcément partie des gros punchers de la catégorie comme peuvent l'être le champion Ilia Topuria ou Josh Emmett.
Ouais, ouais.
Mais par contre, il compense notamment par une très grande vivacité.
Oui.
C'est vraiment sa force, notamment.
Il combine très très bien. Il est vraiment
très vite. Et il a des très belles esquives également.
Ouais.
C'est vraiment sa force. Et plutôt créatif dans son striking également.
Tout à fait.
Il a pas mal tendance à notamment jouer sur les différents niveaux, donc jouer au corps notamment.
Oui.
J'en veux pour preuve, il a deux TKO au foie dans sa carrière, ce qui est plutôt rare.
Il jongle, c'est le terme est approprié, mais il arrive plutôt bien à jongler et à avoir une approche un petit peu et freestyle, si je puis dire, du striking.
Oui,
là où Topuria, justement, c'est vraiment de la pure boxe anglaise. Il a vraiment dans sa posture et la manière qu'il a d'envoyer ses points. Topuria a vraiment eu quelque chose de très orthodoxe, alors que Morgan Charrière, il y a quelque chose de plus freestyle, de plus relâché, qui veut pas dire attention négligé, mais je veux dire il est beaucoup plus créatif, il se
Tout
permet plus d'écart,
plus spontané peut-être,
c'est ça,
ouais peut-être,
il y a un peu de ça,
ouais c'est vrai. Un petit pronostic, tiens, Lunis, pour ce combat.
Allez, je vais miser sur un KO technique au troisième, je pense.
KO
vraiment,
technique au troisième,
un genre d'usure, ouais c'est ça, fin de round, okay. Hop, il tombe.
Ouais, ok, ça me paraît pas déconnant. Et moi, je vais faire la même pour le deuxième round, par contre.
Ok, d'accord.
Voilà, tout simplement. Okay. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les actus de nos combattants français, notamment. On va faire une première petite pause musicale. Nora, qu'est-ce qu'on écoute en musique?
On écoute Fall Out Boy, My Songs Know What You Did in the Dark.
Ok, on écoute Fall Out Boy. Je vais pas dire le titre de la chanson. Et on revient
T'as
juste
fait
après.
Allemand alvéant.
C'est ça. Allez, c'est parti.
C'est petit.
Musique et on revient tout de suite.
I'm in the
Bagarre Club.
On est de retour en direct sur Prune, vous écoutez toujours le Bagarre Club. On a parlé un petit peu de l'actualité des Français qui arrivent, donc la victoire de Manon Ciro le week-end dernier et le combat de Morgan Charrière qui arrive ce week-end. Mm-hmm. On va un petit peu continuer à parler de l'événement du week-end qui arrive. Donc on a parlé de Morgan Charrière, mm-hmm. qui n'est pas le main event.
Non.
Donc là, on va parler du main event.
Puis ouais, le main event, donc il s'agit de Brendan Allen contre Chris Curtis.
Tout à fait. Donc deux petits mots sur les combattants. Brendan Allen, donc palmarès de 23 victoires pour 5 défaites. Chris Curtis, 31 victoires pour 10 défaites.
C'est un vétéran lui pour
donc,
le coup.
C'est un vétéran Curtis, qui a été très actif en plus.
Ouais.
Brendan Allen, on en avait parlé ici après sa victoire contre Paul Craig.
Oui.
Et moi, il m'avait plutôt impressionné. C'est un combattant qui est en pleine montée de puissance. Il est sur 6 victoires consécutives, dont 5 par soumission.
Oui. C'est d'ailleurs l'un des seuls, si je ne dis pas de bêtises, l'un des seuls poids moyens à avoir vraiment un sacré niveau au sol.
Enfin, bah, je dirais. Maintenant, on a Ramzat Chimaev.
Maintenant, il y a Ramzat Chimaev, c'est vrai. Mais bon.
Ouais, c'est vrai, tout à fait. Ouais, voilà. Donc, très gros jujitsu. Et en plus, ce n'est pas le même type de sol.
Non, du tout.
C'est-à-dire que.
Pas du tout la même approche.
Ouais, c'est ça. Brendan Allen, c'est vraiment l'approche jujitsuka.
C'est ça.
Et Ramzat Chimaev, c'est beaucoup plus orienté sans Sambo, style dagestanais.
Oui, oui, c'est ça.
Donc voilà, c'est pas exactement pareil. Brendan Allen, moi qui m'avait vraiment impressionné lors de sa victoire contre Paul Craig.
Oui, je suis d'accord.
Paul Craig qui était un petit peu le combattant qui soumettait tout le monde avant. Mm-hmm. Maintenant, il est sur le déclin, il est plus vieillissant. Et c'est vrai que ce combat entre Paul Craig et Brendan Allen, on avait vraiment la sensation d'assister à un passage à témoin entre les deux combattants.
Il y avait un peu ça, ouais, le passage de flambeau.
C'est ça. Donc voilà, moi je suis un petit peu curieux de voir ce que va donner Brendan Allen à très haut niveau. Donc il est actuellement 8e, si je dis pas de bêtises, de la catégorie.
Ouais.
J'ai hâte. Alors Chris Curtis, malheureusement, il est que 14e.
Oui.
Donc c'est pas forcément là qu'on va le voir. Mais vraiment le voir se frotter au top de la catégorie, j'attends de voir ce qu'il est capable de faire. Qu'est-ce que t'attends, toi, Lounis, de ce combat?
Je pense que ça va donner une situation, à moins d'une grosse surprise, mais un truc un peu à la Derrick Lewis contre Gilton Almeida. C'est-à-dire que d'un côté, on a un mec qui est capable de, bon, d'éteindre la lumière en un, voire deux, entre un et trois coups, à savoir Chris Curtis, un peu comme Derrick Lewis. Bon, Derrick Lewis, c'est un seul coup, hein, mais bref. Et en face, un type qui a un énorme, enfin, qui surprend un peu dans sa catégorie parce qu'il a un énorme niveau au sol. À savoir, donc là, en l'occurrence, il s'agit de Brendan Allen, mais je pensais à Gilton Almeida un peu plus tôt. Et je pense qu'honnêtement, ça va, enfin, à moins que Brendan Allen soit un petit peu plus besogneux que Gilton Almeida et essaye vraiment de soumettre, de trouver justement la moindre clé de bras ou comment dire, ou étranglement possible pour venir à bout de Chris Curtis. Je pense qu'on va avoir un combat justement à sens unique qui va vraiment durer, qui va durer un long moment. Mais, je veux dire, si tant est que Chris Curtis arrive un tout petit peu avoir une certaine défense, on va dire, en matière de takedown, il peut très bien envoyer un uppercut et justement, je parlais de Derrick Lewis, faire ce que Derrick Lewis a fait à Curtis Blades lorsque Curtis Blades avait essayé justement de le jeter sur lui, il lui avait envoyé un uppercut qui juste l'avait terrassé d'un coup. Le KO était assez drôle à voir, mais honnêtement, je miserais plutôt sur une domination complète de Brendan Allen, mais tout est possible avec Chris Curtis, donc on verra bien.
Ouais. Moi, je te rejoins plus ou moins, surtout que ce qui m'avait vraiment marqué sur Brendan Allen, c'est vraiment sa capacité à casser la distance
dans ce combat
contre Paul Craig. Donc il sait faire, il a de la vivacité, il a de la créativité pour essayer vraiment comme j'ai dit, de casser la distance et de se rapprocher donc du coup plutôt des phases de clinch et ensuite des phases au sol. Il a des bonnes amenées au sol. Donc je pense qu'il a vraiment travaillé notamment son judo. J'ai vu pas mal de balayettes, de choses comme ça, de crochetage qui étaient vraiment intéressantes pour amener. Donc c'était, je fais notamment référence à son combat contre Paul Craig, pour amener Paul Craig au sol. Et par contre, je pense sincèrement que si Brendan Allen arrive à aller rapidement au sol, je vois pas Chris Curtis durer bien longtemps défensivement. Parce que il faut pas oublier que Brendan Allen est quand même très actif une fois au sol. J'en veux pour preuve ses 5 victoires par soumission sur ses 6 derniers combats. Et s'il a réussi à soumettre Paul Craig, qui est quand même d'un autre niveau que Chris Curtis au sol, je pense pas qu'au sol, Chris Curtis va vraiment poser beaucoup de problèmes à Brendan Allen. Maintenant, ça c'est la théorie, et on sait très bien que la pratique c'est autre chose.
Oui. Je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, ça me ferait rire en fait qu'on arrive à une trilogie entre les deux parce qu'ils se sont déjà affrontés une fois. Et pendant le premier combat, c'est Chris Curtis qui a mis un KO technique à Brendan Allen. Donc, ça serait un peu marrant de voir une espèce de trilogie un peu, bon, évidemment, moins classe, hein, qu'un Stipe Miocic contre Daniel Cormier ou qu'un, je sais pas moi, qu'un Adesanya Pereira. Mais ce serait marrant quand même de voir une espèce de mini trilogie jouée entre les deux. Qui s'affronterait comme ça, je sais pas, le troisième combat pourrait avoir lieu sur une grosse carte et ce serait un peu drôle, mais on verra bien.
C'est vrai que ça pourrait être marrant. En plus, je trouve qu'il y a quand même un minimum d'enjeux entre les deux combattants. L'enjeu pour Brendan Allen, ça va être un petit peu de montrer que il peut affronter un striker pur, qui peut gagner, qui peut le battre. Et aussi, ça va être un petit peu essayer d'aller chercher, bah, comme on l'a dit, un vétéran.
Oui.
On sait que plus on a de l'expérience, plus mentalement on sait gérer, plus on a eu l'occasion d'appréhender différents types de combats. Donc s'il arrive à le battre, et bah, ça témoignerait d'une certaine polyvalence, entre guillemets, de Brendan Allen.
Oui.
L'enjeu pour Chris Curtis, ça va être d'essayer de se relancer, lui qui est 14e au classement. Il a moins à perdre, parce que forcément, il affronte quelqu'un qui est devant lui au classement. Donc s'il perd, ce sera entre guillemets « normal ». Mais voilà, ça peut être pourquoi pas l'occasion de se relancer face à quelqu'un qui monte en puissance.
Tout à fait, même si j'espère tout de même que Brendan Allen sortira victorieux, parce qu'il apporte un peu de sang neuf à la catégorie des middleweight, enfin des poids moyens, et on en a besoin quand même.
Ouais, c'est ça. Puis en plus, moi je le trouve spectaculaire dans son jujitsu, surtout il est très actif en général. Donc voilà, c'est vrai que ça manque un petit peu, je trouve, à l'UFC dans toutes les catégories. Voilà,
Là, quoi qu'on pense de lui, il y a Ramzat qui vient d'arriver et qui promet quand même d'être assez spectaculaire. Mais avoir un peu de sang neuf, c'est toujours bon, je trouve.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Un petit pronostic.
Je vais être précis. Brendan Allen par Kimura, enfin une clé de bras dans je dirais troisième round.
Pourquoi ? Parce que c'est une pratique qu'il exerce habituellement ?
Non, mais je sais pas, j'ai une image.
Intuition.
J'ai la lumière, j'ai vu une image, je l'ai vu en train d'exploser le bras de Chris Curtis, donc je vais dire
t'as des images hyper agréables.
J'en ai des pires que ça, tu veux pas les voir.
Non, mais surtout.
J'ai fait des jeux de rôle avec toi.
Surtout en plus, les clés de bras, c'est pas une soumission qu'on voit énormément. En général, qu'on voit victoire par soumission, c'est étranglement, c'est guillotine, c'est des choses comme ça.
Mais attends, je suis désolée, parce que étranglement, une clé de bras, ce n'est pas un étranglement.
Non, du coup, c'est juste tu vas aller exercer une pression sur l'articulation au niveau du coude.
Pour menacer de lui casser le bras, en fait.
Ah oui, d'accord, ok, je l'entendais pas.
Il y a différentes manières de le faire. T'as la Kimura qui est la plus connue, mais t'en as plein d'autres.
Voilà, tout à fait.
Yes. Un sport hyper agréable, quoi.
Évidemment.
Oui.
Ouais, en général, quand t'es pris dans une clé de bras, tu tapes très vite parce que ça fait très très vite mal.
Ouais, non, mais en fait, ça peut partir super vite.
Parenthèse, on parle de l'aspect technique, tout ça. C'est un sport de bûcheron, hein, c'est un sport de gladiateur. Hein, faut pas perdre ça de vue.
Ah non, tout à fait.
Ouais, t'as bien raison.
Ouais, bah, écoute, moi je vais te suivre. Je vais partir sur une victoire par soumission au deuxième round plutôt.
Ah oui, rapide.
Plutôt que le troisième, ouais. Donc, on le rappelle, c'est le main event. Il y aura 5 rounds.
Oui.
Si ça va au bout, c'est 5 rounds. Je vois pas ce combat aller à la finition, à la décision.
Ouais, non, moi non plus. Je pense que Allen va trouver une feinte, quelque chose.
D'ailleurs, j'ai dit que c'était en 5 rounds. Autre enjeu, si ça va dans les rounds un peu plus loin, c'est un moyen pour Brendan Allen de se tester dans les rounds un peu plus lointains.
Bien sûr, voir son cardio, tester son cardio.
Connaître son endurance.
Voilà, exactement.
Bah, Curtis, pour le coup, est un vétéran, donc il me semble qu'il a déjà fait au moins quelques combats de 5 rounds. Mais Allen, je n'ai pas souvenir que justement.
Je pense pas, non.
Donc on verra.
On a une moyenne sur les main events. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est très fluctuant ou est-ce qu'on sait à peu près généralement combien de temps ça peut durer ? Ou alors c'est vraiment très fluctuant en fonction des combats ?
Non, c'est fluctuant, ça dépend. Ouais. Ça dépend vraiment.
Franchement, okay. On a dit qu'Alien n'a pas fait de combat en 5 rounds. Il a fait un main event contre Paul Craig.
C'est un
main event, mais ça s'était stoppé au troisième round.
Voilà.
Donc, voilà, tout simplement. On ne sait pas si, à partir du quatrième ou cinquième round, est-ce qu'il a le cardio suffisant pour aller chercher une grosse guerre, tout simplement.
Ouais,
moi je vais partir sur soumission au deuxième round. Voilà un petit peu donc, ce qu'on pouvait dire sur la Fight Night qui arrive ce samedi, donc dans la nuit de samedi à dimanche. D'ailleurs, il me semble que c'est un petit peu plus tôt que d'habitude.
Je crois
que c'est main carte principale à minuit.
Oh, ça serait bien.
Là où d'habitude, c'est à 4h.
Ça se passe où cette fois-ci ? Parce que ça dépend beaucoup des pays.
Si c'est en Europe ou en Arabie Saoudite, c'est ça, c'est autour de 23h minuit la plupart du temps, la carte principale.
Ouais, c'est ça. Mais là, il me semble que c'est quand même aux États-Unis.
D'accord, ok.
Mais,
peut-être la côte Est.
Côte Est, à mon avis.
À voir.
Ouais, tout à fait.
Plus... plus probable.
Donc voilà, donc on regardera ça, nous. Je pense que je regarderai ça en direct,
personnellement. Ouais, honnêtement, ouais.
Donc il y a des combats intéressants quand même. On va passer. Donc voilà, on a parlé de la Fight Night. Donc les Fight Night, tout ça, c'est bien sympa. Brendan Allen, ok, super top. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui arrive dans deux semaines. C'est le gros morceau, l'événement qu'on attend tous depuis deux ans et demi, honnêtement.
Moi, clairement, ça fait deux ans et demi que je l'attends.
L'UFC 300, qui aura lieu le 12 avril, il me semble. Voilà, donc le samedi dans deux semaines. On aura une grosse émission la semaine prochaine où on s'attardera en longueur sur les combats de la carte principale.
Bien sûr.
Cette semaine, on va s'attaquer en douceur avec les préliminaires et les pré-préliminaires.
Oui.
Donc, c'est les cartes secondaires. Et on va voir un petit peu combat par combat. Alors, attendez, je prends la carte sous les yeux histoire de l'avoir. Tu l'as, Lounis?
Je l'ai. Je n'ai plus beaucoup de batterie, mais oui, j'ai quelques combats.
Hop, je l'ai également. Le premier, on va faire dans l'ordre tout simplement. Le premier combat, et moi j'ai envie de m'attarder un petit peu dessus, c'est le Brésilien Davinson Figueiredo qui va affronter Cody Garbrandt en poids coq.
Oui.
Donc très intéressant comme combat. Pourquoi? Parce qu'on a un Davinson Figueiredo, ancien champion des poids mouches.
Très 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 champion, très dominant des poids mouches.
Voilà, tout à fait. Qui a fait sa montée de catégorie en poids coq lors de son dernier combat qui était contre Rob Font. Oui. Qui l'a remporté. Et là, du coup, l'enjeu pour Figueiredo, ça va être de confirmer sa montée en poids coq en échangeant une deuxième victoire,
oui,
pour essayer, pourquoi pas, d'aller chercher un titre. Sauf qu'il va, ça, il va se confronter à un problème de taille.
Cody Garbrandt,
voilà.
Qui, même s'il était sur une série de défaites avant qu'il brise cette série de défaites par un KO qui était en
Alors, si je peux, faire un petit retour sur la carrière de Cody Garbrandt, c'est 11 victoires consécutives depuis ses débuts.
Mm-hmm.
À sa 11e victoire, il prend le titre contre Dominic Cruz. Donc il
avec une performance qui est légendaire.
Exceptionnelle.
Mais vraiment,
franchement, en termes de spectacle, faites-vous ce combat, c'est incroyable. Ensuite, il y a défaite. Sur les 5 combats qui arrivent, c'est 4 défaites. Donc vraiment une série noire pour Cody Garbrandt. Et il est revenu et il est sur deux victoires consécutives. Ouais. Donc, je pense que je parle également ton nom, Lounis. On a envie de voir un Cody Garbrandt qui repart pour un tour. Quoi,
mais moi, j'ai l'espoir. Je ne pense pas que ça arrivera. Parce que je pense qu'un combattant, n'atteint cet état de grâce une seule fois dans sa vie pendant un seul combat. Mais j'ai espoir quand même que le super saiyan Cody Garbrandt qu'on avait vu face à Dominic Cruz, il est pas mort et qui peut réapparaître. Et pour ceux qui n'ont pas vu ce combat, donc où il a pris le titre des poids coq, ouais, face à Dominic Cruz, je vous encourage vraiment à le regarder sur YouTube parce qu'en fait Cody Garbrandt esquive tous les coups comme s'il les voyait au ralenti. C'est terrifiant à regarder. On a vraiment l'impression qu'il est dans un espèce de jeu vidéo où il comprend en fait ce que va faire Dominic Cruz avant qu'il envoie les coups. Il fait des pas de danse tout en esquivant, c'est n'importe quoi. Et je crois qu'il finit par le mettre KO. En tout cas, il le domine. Enfin, c'est une performance qui est devenue assez légendaire. Et j'ai l'espoir de revoir, et qui sait, ce Cody Garbrandt-là face à Davinson Figueiredo, qui tactiquement est vraiment un très très bon combattant. C'était vraiment un super champion. Sa rivalité avec Brandon Moreno a fait date, hein, d'ailleurs, 4 combats. Donc, c'est un combat que j'attends énormément, et pour le coup, je ne saurais pas trancher. J'ai énormément de mal à me décider entre les deux. Je trouve que c'est vraiment un combat qui est très équilibré pour le coup.
Il va falloir, car il y aura un pronostic à faire. Mais voilà, donc avant de te dire ton prono, petit bilan de ce combat. Moi, je l'ai un peu appelé le combat du renouveau.
Ouais, clairement.
Tout simplement. Parce qu'ils
en sont au même point, je trouve.
Renouveau de catégorie pour Davinson Figueiredo. Et retour en grâce, peut-être, pour Cody Garbrandt.
Oui.
A besoin de relancer, vraiment d'enchaîner les victoires. Pour vraiment se remettre dans un bon état mental.
Probablement essayer de retourner au titre, mais ouais.
Après, il y a du monde devant, chez les poids coq.
C'est pas impossible.
Voilà, tout à fait. Ton pronostic, Lounis, dis-moi.
C'est difficile, hein, mais allez, Figueiredo par décision partagée.
Figueiredo par décision. Alors, il faut savoir que j'ai créé un petit tableau avec tous nos pronos.
J'ai dit décision partagée, hein. J'ai pas dit unanime. J'ai dit partagée.
Je pense qu'une fois que tu as décision, ça sera bon. Donc, Lounis, Figué par décision. Moi, j'avais mis un Cody Garbrandt par KO round 2.
C'était pas impossible. Hein. J'ai mis décision pour Figueiredo, mais à tout moment, il balance la cacahuète magique c'est et ça, c'est fini. Quoi.
Et alors, Hugo n'est pas là, mais il nous a quand même donné ses pronostics. Et il voit Figueiredo par KO. Donc,
pas impossible, mais plus compliqué.
Ça me paraît quand même... Ça me paraît quand même vraiment tiré par les cheveux. Mais bon, c'est Hugo, on va respecter ses avis, évidemment. Tac. Donc, je note, Figué, hop, par
Hugo. Il y a Nora qui est en train de regarder le combat entre Cody Garbrandt et Dominique Roode. Elle est ébahie.
En fait, déjà, ce que je peux dire, c'est que en fait, j'ai un peu moins vu des combats avec... je pourrais pas...
Des poids légers, c'est ça ?
Ouais, voilà. J'avais peur de dire une bêtise, mais des poids aussi légers. Et déjà, en fait, ce qui est hyper appréciable, c'est que tu as ce sentiment de légèreté et de vraie vigueur, en fait, de très, très furtif. Et Garbrandt, j'allais dire hyper drôle, c'est peut-être pas le terme, mais il a ce petit côté un peu taquin parce que tu vois qu'il enchaîne un jeu de jambes un peu « Allez, viens là, mec, je t'attends ». Et donc là, il y a les ralentis qui passent, il est en train de l'amener au sol... Et c'est assez impressionnant de voir aussi l'énergie qu'il a, la furtivité. Donc, je connais pas plus que ce combattant, mais donc déjà, j'aime bien son style, si tu veux.
Donc voilà, vous avez un petit peu l'avis d'expert de Nora.
Mais il l'a pas encore achevé, donc...
Ça ne serait pas tardé.
Avis d'expert, c'est un peu trop... j'ai plus de réserves.
Donc voilà, du coup, un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce combat. On va passer au deuxième combat de la soirée. Combat, alors on va le dire, combat de vieux. Hein. Faut dire les termes. Donc en poids léger, Bobby Green contre Jim Miller. Jim Miller, si je me trompe pas, qui a été sur la carte de l'UFC 100,
oui.
Sur la carte de l'UFC 200, et maintenant sur la carte de l'UFC 300.
Alors ça doit l'aider, hein, parce que je vois que là moi je suis en train de mater UFC 207, et 207 c'est déjà 2016. Oui. On est en 2024. En fait, t'as tendance à te dire, ça fait pas si longtemps. Ça commence à remonter.
UFC 100. Jim Miller, il a combattu sur une carte où Obama, premier mandat, était président. Où Obama, deuxième mandat, était président. Et où. et là où Biden est président, si tu veux. Il est vieux à ce point-là, tu vois.
Ouais, c'est vrai que ça commence. Mais attends, mais le premier mandat d'Obama, c'est 2008.
2009.
Ouais, 8-9.
Ouais, de Wade.
Oui, oui.
Ah, oui, quand même. Ah, ouais, on est sur.
Vous êtes dans le Bagarre Club, votre émission politique.
Non, bon, bref.
Non, mais pour dater,
c'est quand même des carrières. C'est le plus gros vétéran de l'UFC.
Et Bobby Green, qui est aussi très âgé.
Les sportifs n'ont pas des carrières.
Surtout dans le MMA.
Dans le MMA, tu fais pas carrière très longtemps.
Non, parce que c'est. Bon, voilà. Enfin, je l'avais dit une fois pendant une émission, quand ton job, vraiment, ça consiste à te prendre des pains dans la gueule toute la. Voilà. Ça fatigue vite. Et donc, c'est assez impressionnant, en fait, de voir que tu as des combattants qui. Longévité en fait dans leur sport.
Tout à fait. Et en plus, connaissant les deux combattants, Jim Miller, c'était pas un combattant qui se réservait énormément.
Jamais.
On est sur quelle catégorie de poids ?
C'est poids léger. Donc la moyenne.
Ok.
Globalement. Et voilà. Donc on va pas s'attarder énormément. Ton prono, Lounis.
Allez, Bobby Green par KO.
Green par KO. Ouais. Quel round ?
Allez, premier round.
Première ronde. j'avais mis Green par décision.
C'est pas impossible.
Voilà, sur trois rounds, je me dis, bon, voilà. Hugo aussi nous avait fait part, du coup, Green par KO. Ouais. Donc, vous vous rejoignez là-dessus.
Ouais.
Voilà pour le combat de Bobby Green et Jim Miller. Ensuite, combat chez les femmes. Jessica Andrade, grosse puncheuse.
Oui.
Grosse puissance de frappe, grosse strikeuse.
Ouais.
Contre Rodriguez. Pareil, Jessica Andrade, toujours appréciable ses combats.
Oui.
Qui est également assez âgée, il me semble, 35 ans.
Ouais, commence à prendre de la bouteille, ouais.
Toujours agréable à regarder, voilà.
Toujours, ouais. Moi, j'aime vraiment bien regarder les combats d'Andrade. Je les trouve, en tout cas, d'un point de vue technique, je les trouve jamais ennuyeux. Il y a toujours un truc un peu intéressant à regarder, quoi.
Donc, voilà. Petite prono, vas-y. Hop, on accélère. Ouais,
allez, c'est l'UFC 300 KO technique d'Andrade au
TKO Andrade.
Deuxième round.
Deuxième round, ok. Moi, j'allais sur un. J'avais mis quoi ? J'avais Andrade par décision, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même rarement de finition chez les femmes.
C'est rare, donc, mais Andrade peut finir, donc.
Oui, c'est vrai, Andrade peut. Hop, Andrade TKO, deuxième round. Et Hugo, il nous avait dit, Andrade par décision aussi.
Ouais, non mais choix logique.
Voilà, je pense qu'on a été raisonnables, toi et moi. Toi, Lounis, tu veux du spectacle.
Bah, c'est l'UFC 300 quand même.
C'est vrai, tout à fait. En plus, peut-être que UFC 300, les combattants vont avoir envie de se faire voir.
Mais je pense qu'ils vont peut-être se lâcher un petit peu aussi. Hein. Donc, c'était la grande fête de l'organisation, donc je me dis, ils vont, quitte à se faire éteindre, ils vont quand même y aller, quoi.
Jalen Turner contre Moicano. Poids léger encore.
Jalen Turner par KO au premier round.
Turner bon, KO
on n'en parle pas
round.
Longtemps.
Premier
oui,
round
oui, 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 oui.
Jalen Turner qui a la particularité oui. d'être très grand et très longiligne. Du coup, il a une plutôt grande allonge. Donc, c'est vrai qu'il y a un jeu de jambes intéressant.
Non, non, il va envoyer une droite à l'autre bout de l'octogone. Le mec, il va finir.
Hugo qui avait mis Turner par décision, plutôt étonnant. J'avais mis TKO deuxième round pour Turner, premier round aussi pour Turner.
Je sais pas, je le sens expéditif. Moi, mais...
Donc voilà, donc c'était pour les pré-préliminaires. On va passer un petit peu aux préliminaires.
Oui.
Donc voilà, la carte qui commence vraiment petit à petit. De toute façon, en vrai, tous les combats sont incroyables.
Oui,
donc,
oui, oui.
Qui, non, petit non, à petit, voilà, on augmente en termes d'intensité. Youssouf contre Diego Lopez. Diego Lopez, c'est un combattant qui est assez drôle à voir.
Ouais.
Ils l'ont mis sur le UFC 300 parce que c'est ils ont envie de le faire monter, tout simplement.
Ouais.
Hein. Voilà, donc Diego Lopez, très spectaculaire, très intéressant également. Qu'est-ce que toi, tu t'attends de ce combat ?
Tout peut arriver, mais allez, pour la vanne, je vois bien Diego Lopez par soumission. Une espèce de... Non, mais honnêtement, un espèce de triangle choke comme ça au deuxième round, tu vois.
Ouais. Ah ouais, une soumission un peu qui sort de
ouais,
nulle part.
Non, mais ouais, vraiment, genre un peu comme Poirier contre Chandler, tu vois. Personne ne la voit venir.
Ah ouais, peut-être.
Tu
ouais.
vois, un truc du genre. Genre, ils font un roulé-boulé après un knockdown et hop, il y a une soumission qui passe.
Ah, c'est vrai que ça pourrait être marrant. Un peu un Nate Diaz-McGregor.
C'est ça, exactement, voilà. Ouais.
Donc, pour expliquer, c'est des combattants qu'on ne voit pas forcément gagner
non,
au
jamais,
sol.
Jamais.
C'est surtout des gros strikers, mais c'est vrai que.
Mais à tout le moment, ça peut arriver.
Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, forcément. On est en MMA et pas en boxe, en kickboxing. Donc, Diego Lopez, voilà, on est un petit peu, curieux de voir ce que ça va donner. Combattant très spectaculaire.
Ouais, ouais.
Donc, soumission, tu m'avais dit round 2.
Round 2, allez.
Round 2. Moi, j'avais mis TKO round 2 pour Diego Lopez. Donc voilà, Hugo il nous a pas donné ses pronos pour les préliminaires, mais bon, de toute façon il fait le travail qu'à moitié.
Voilà.
Je me permets d'intervenir une dernière fois sur Garbrandt parce que je suis toujours en train de mater son combat. Non, en fait c'est assez impressionnant. Enfin, il y a un coup en particulier, il esquive et il lui remet un crochet dans la gueule. Et en fait j'aime beaucoup son style, même si un combat n'est pas représentatif.
Un peu flashy là, mais c'est n'importe quoi.
Mais ouais, mais enfin voilà, on est toujours en fait dans ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, c'est du spectaculaire. Il a un côté un petit peu espiègle, un peu je fais le malin devant toi. Il tape des petites plates danses quoi dans le combat.
Ah oui, non mais oui, tout à fait, c'est très provocateur.
Et en fait le combat, alors vous allez me taper dessus, mais je trouve que le combat est très fun, impressionnant, mais clairement amusant quoi.
Mais moi j'ai pris mon pied devant Derek Lewis contre Tito Ivasa, hein. voir deux camionneurs taper dessus à la sortie du parking, moi j'adore, hein. Je suis fan.
Ah oui, alors
voilà.
Là du coup on n'est pas du tout dans le même registre pour.
Oui, il y a moins de finesse déjà, tu vois.
Non mais moi je suis fan.
Mais non, franchement, Garbrandt est assez impressionnant. Je prends pas du tout part au pronostic habituellement parce que j'y connais rien en fait. Mais là, pour ce combat-là, franchement, je miserais bien sur Garbrandt.
T'as envie de voir Garbrandt ?
Parce que, ouais, je sais pas, je me pencherais peut-être dessus, tu vois, pour l'UFC 300 parce que.
Bah, en plus, l'avantage,
c'est que. Il va taper dans l'œil un peu, tu vois.
L'avantage, c'est que ce sera le premier combat de la soirée. Donc, si tu regardais que lui, tu peux aller te coucher de bonne heure après.
Oui,
ouais, c'est possible.
Donc,
oui.
Minuit et demi, c'est au lit.
Voilà.
Donc, voilà, on va continuer un petit peu notre tour d'horizon. Voilà, il nous reste 5 minutes avant la fin de l'émission.
10.
Non, parce qu'il y a une émission après, il faut qu'on rentre 5 minutes avant.
Et oui.
Ah, yes, merci.
Voilà. Holly Holm contre Kayla Harrison.
Ah, c'est un pronom intéressant parce que. Alors, Kayla Harrison, c'est une.
C'est une nouvelle signature.
C'est une nouvelle signature, mais elle a une énorme carrière en boxe anglaise avant.
Ouais.
Je crois qu'elle a été médaillée olympique, je sais plus, mais en tout cas, elle a vraiment un énorme niveau en boxe anglaise. Holly Holm, on la présente plus, c'est une légende de la catégorie féminine. Hein, son KO contre Ronda Rousey, c'est un des plus incroyables, je pense, qu'on ait vu.
C'est une vétéran,
jeu de jambes extraordinaire, high kick de folie. Je pense qu'on peut avoir un combat très intéressant.
Explosif.
Ouais, vraiment très explosif.
Ah ouais.
Et en vrai, pour la poésie du truc, j'aimerais bien qu'il y ait un KO par high kick de Holly Holm.
High kick.
Ouais.
Holly Holm, hop, on
mais,
note le prono.
Ouais.
Holly Holm par.
Je sais pas à quel round, mais j'aimerais bien.
Il va falloir.
Alors, allez, round 3.
Holm, KO.
À l'usure sur un. Voilà, sur le fil du rasoir.
Ok.
Quoi.
Intéressant. Moi, j'avais mis Kayla Harrison par décision.
Oh bah, clairement possible.
Voilà.
Hein, clairement
Kayla Harrison qui cadre un petit peu Holly Holm, qui gère avec son anglaise.
C'est tout à fait possible.
Donc, maintenant, c'est vrai que forcément, quand on est spécialiste des high kicks, la longe, elle est plus grande.
Ouais.
Donc, la gestion de distance, c'est plus compliqué.
Ouais.
Donc, voilà. Calvin Kattar, Aljamain Sterling.
Ça va être trop bien.
Il y a des choses à dire. Aljamain Sterling bien. Qui fait sa montée donc, ouais. en poids plume, donc ancien champion des poids coq,
ouais.
voilà, qui s'est fait mettre KO par Sean O'Malley lors de son dernier combat.
Extrêmement complet, Aljamain Sterling.
Tout donc, à fait. Oh, quand même plutôt lutte.
Plutôt lutte, mais il a vraiment une bonne boxe. Et il ne faut pas la sous-estimer. Kattar, lui, pour le coup, c'était vraiment un striker, donc pied-point quasiment exclusivement. Oui.
C'est... Son arme fétiche, les coudes.
Ouais. Donc c'était pas facile parce que le travail en clinch pourrait vraiment être tapé par Kattar pour le coup. Ce qu'aime bien faire justement Sterling pourrait vraiment être compromis par la stratégie de Kattar. Je vois Kattar s'en sortir, honnêtement.
C'est toujours un petit peu l'inconnu quand il y a un combattant qui monte de catégorie. C'est comment est-ce qu'il va réussir à appréhender son nouveau poids dans la cage.
Ouais. Mais je vois plutôt Kattar, par décision unanime.
Et surtout, en plus, ce qui faisait la force un petit peu d'Aljamain Sterling, c'était qu'il arrivait à reprendre très vite du poids après la pesée, le cutting. Et du coup, il arrivait très lourd dans la cage par rapport à ses adversaires. Il va être sur des adversaires qui vont avoir plus l'habitude d'appréhender un petit peu ce genre de poids. Donc c'est vrai que je vais plutôt aussi miser sur Kattar par TKO round 3.
Faudrait qu'on en parle un de ces quatre du weight cut d'ailleurs parce que
on en a déjà parlé,
il me semble.
Mais ou alors qu'on en reparle, j'étais peut-être pas là. Mais je trouve que la pratique, enfin bon là on n'a pas le temps, mais enfin
elle pose beaucoup de problèmes.
Ce sera le sujet d'un débat, il me semble.
Voilà. Éthiquement, moi ça me pose quelques questions. Je comprends le principe, tu vois, mais j'ai bugué mais vraiment
pose, pose
pendant.
Elle pose beaucoup de questions à beaucoup de monde, donc on peut.
Enfin, c'était un ami qui me l'a expliqué. Le principe, et j'étais restée un peu pantoise.
Non, mais de toute façon, j'ai déjà eu cette
idée. C'est particulier, quoi.
Pour les émissions, on n'a pas trop d'autres trucs à dire. Des fois, on essaye d'avoir des petits débats. Et c'est vrai que le cutting, pour ou contre, c'est un débat qui va vraiment être intéressant et qui a pu nous prendre pas mal de temps. Le dernier combat des préliminaires.
Yes.
Le petit chouchou de Lounis.
Ah, je suis mon préféré.
Ton combattant actuel préféré.
Oui, clairement.
Yari Prochka contre Alexander Rakic.
Ouais.
Donc, combat chez les lourds légers, la deuxième catégorie la plus lourde de l'UFC.
Ouais. Je peux me fourvoir, faut jamais sous-estimer l'adversaire et ne pas être aveuglé par son chouchou, mais je vois pas comment Rakic va poser problème à Prochka, en fait. Je ne vois pas comment il peut le battre.
Donc, Yari Prochka qui sort malheureusement d'une défaite contre le champion
contre Pereira, ouais.
Donc,
Le truc avec Yari Prochka, c'est qu'il a pas de garde. Donc, dans l'absolu, tu pourrais te dire, oui, si j'arrive à bien l'enclencher, je peux le mettre KO. Oui, mais t'es pas Alex Pereira, en fait.
C'est ça.
Stopper Prochka d'un seul coup, il y a que Pereira qui peut faire ça. Écoute, ça va être une boucherie. Prochka par décapitation au deuxième round. Non, mais vraiment.
Ah oui, décapitation.
Il va lui envoyer un coup de retourné et sa tête, elle va partir.
Ah, c'est vrai que Rakic, il a pas du tout ce côté fulgurant.
Il a pas ce qu'il faut pour.
Ouais, c'est ça. C'est un gros bagage de lutte.
Il est pas mauvais, mais il a juste pas ce qu'il faut pour battre Prochka. Mais on verra.
Donc Yari Prochka, TKO round 2, hop, on note. Moi, j'avais un Yiri par soumission au round 2, par contre. J'avais envie de le tenter, tu vois.
Il est tellement chaotique, il fait tellement n'importe quoi pendant les combats que oui, c'est... non, mais il a soumis Glover Teixeira, hein. Donc à n'importe quel moment,
tu vois, moi, je voyais bien un truc un peu dans ce style-là.
Ah, mais c'est possible, hein. c'est totalement
donc,
possible.
Donc voilà, Yiri soumission. C'est le combat que t'attends le plus des préliminaires.
Ouais, non, clairement. Mais j'ai un peu peur. J'ai pas envie que Yiri continue justement cette pente descendante depuis la blessure qu'il a eue et la défaite contre Pereira. Mais on verra. J'espère juste qu'il a appris à mettre sa garde, mais je sais que c'est pas le cas.
Donc, disons que c'est un bon combattant qui va être vraiment à sa portée. En fait, ils ont donné à Yiri Prochka, ils ont donné Rakic vraiment pour le relancer.
Non, c'est ça. C'est un peu un agneau à l'abattoir, quoi.
C'est ça.
Non, mais c'est un peu ça, quand même, clairement.
Après, il a rien à perdre.
Ah non, il a rien à perdre.
Voilà, il va arriver vraiment sans pression tout à prouver. Voilà donc un petit peu pour les préliminaires de l'UFC 300. On vous l'a dit, on fera un retour vraiment en détail sur les combats de la carte principale. Donc ça, ce sera la semaine prochaine avant l'événement principal. La semaine prochaine, on fera évidemment un retour sur l'événement de ce week-end. Donc les combats dont on a fait la preview plutôt Morgan Charrière et le main event Allen Curtis 2. C'est la fin de notre émission. Voilà, tout simplement.
Fait.
Merci à vous, Lounis et Nora, pour cette émission.
Merci
vous avez été
merci
présents.
À toi de la gérer.
Contrairement à Hugo. Je lui envoie des pics, mais évidemment, on lui fait des bisous. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. N'hésitez pas à nous donner vos retours, à débattre avec nous, à nous poser des questions. On se fera un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas, la première règle du Bagarre Club, c'est qu'on parle du Bagarre Club. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous follow, à partager l'émission, nos réseaux sociaux, Instagram et Twitter, @lebagarreclub. L'émission sera disponible en podcast si un jour Hugo arrive à sortir de chez lui.
Parce que c'est lui qui gère ça. Hugo donc, est actuellement assigné à résidence. Il ne peut pas quitter son domicile.
Il est en détention.
Il est en détention.
Tout à fait.
Assigné à résidence par surveillance électronique, du coup.
Tout à fait, exactement. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne soirée sur Prune. On se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle émission du Bagarre Club. Bonne soirée.
Bonne soirée.